Vous écoutez France Culture. Les matins de France Culture, Marc Voinchet.
Et la question du jour est de savoir si la Grèce est-elle au bord du chaos ou au bord du chaos. Vous savez qu'aujourd'hui, un sommet européen extraordinaire doit se tenir à Bruxelles pour éviter à la Grèce un défaut de paiement aux conséquences imprévisibles quelques heures après la présentation par Athènes de nouvelles propositions à ses créanciers qui y voient, entre guillemets, je cite les créanciers, une bonne base. Le fait est que la presse du jour n'est pas très optimiste, par exemple Libération ou encore Les Échos et d'autres encore qui imaginent que peut-être il faudra que la Grèce sorte, qu'elle risque même de sortir du Grexit et que s'il ne sort pas du Grexit, elle pourrait sonner peut-être le Grexin. Bonjour Agnès Benassi-Carré.
Bonjour Marc Voinchet.
Je me souviens de vos chroniques qui essayaient de nous expliquer, vous y arriviez parfaitement dans les matins de France Culture il n'y a pas si longtemps, ces troubles et les aléas de l'économie. Je rappelle que vous êtes professeur à Paris 1, que vous avez 1000 étudiants.
Oui, à peu près, si je les additionne.
C'est beaucoup.
Eh bien oui.
Et vous y arrivez ?
Il faut croire.
Il faut tout corriger.
Les copies.
Je suis dans les copies, là.
C'est à ça que je pense. Hein. Voilà, c'est toujours l'inflation. Vous êtes membre du cercle des économistes, et puis, faut-il le rappeler tout de même aussi, présidente déléguée du prestigieux Conseil d'analyse économique. Bonjour à vous, Guillaume Duval.
Bonjour.
Rédacteur en chef du mensuel Alternative Économique. Vous avez publié, il n'y a pas si longtemps, « Marre de cette Europe-là » pour l'interrogation. Moi aussi, disiez-vous, pour les éditions textuelles, il y a en janvier 2015. Et puis, nous attendons, parce qu'il est toujours en retard, et il est bien normal, Jean-Marc Daniel, économiste, professeur associé à l'ESCP Europe et directeur de la rédaction de la revue sociétale. Il est aussi d'ailleurs chroniqueur chez nos amis de BFM. Nous aurons dans un instant au téléphone Angélique Kournis, la correspondante de Radio France à Athènes, pour savoir un peu comment ce lundi 22 juin est vécu à Athènes. Mais j'aurais tout de même vous poser une première question, parce qu'après tout, on est à France Culture, il faut bien se souvenir de l'étymologie. Bon, définition de chaos, hein, en latin chaos, du grec chaos, qui veut dire abîme. Hein, on est d'accord jusque-là, Agnès Benassi-Carré. Je vais faire le prof, moi, pour une fois ce matin. Connaissez-vous la définition qui existe dans le petit Larousse en ligne ?
Et on va vous entendre.
Guillaume Duval.
Pas encore, mais
alors,
je sens que je vais la connaître bientôt.
Définition de chaos dans le petit Larousse en ligne, sur Internet. D'abord, ensemble de choses sans dessus-dessous et donnant l'image de la destruction, de la ruine, du désordre. Exemple, le chaos des immeubles effondrés. Deuxième définition du petit Larousse, état de confusion générale, deux points, mettre le chaos dans une économie fragile par des mesures intempestives. Est-ce que ça définit bien la situation dans laquelle on est à nouveau ce lundi 22 juin 2015 ?
Je pense que ça définit Agnès bien. Ça définit bien et ça montre le chemin qu'on a parcouru. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, il y a des gens pour vous expliquer qu'on pouvait faire une sortie de la zone euro ordonnée. Ordonnée, donc pas de chaos, une sortie propre. Où le dimanche, on conçoit le plan dans les caves de la banque de Grèce. Et le lundi matin, eh bien, les drachmes nouvelles arrivent dans les banques. Et tout ça se passe très bien. Et pour la plus grande prospérité de la Grèce. Je pense que cette image, elle nous a quittés. Je pense que tout le monde a conscience du fait qu'un Grexit, ça se passera forcément assez mal, au moins à court terme.
Que si la Grèce sortait réellement de l'euro, ça serait la cata pour la Grèce, mais pour tout le monde.
Je crois que la chose la plus simple à comprendre, c'est que d'abord ça va être précédé par des contrôles de capitaux, donc une difficulté pour la vie quotidienne des personnes en Grèce, et ensuite l'introduction de nouvelles monnaies, mais on n'y est pas, hein. Mais l'introduction d'une nouvelle monnaie, ce serait forcément une monnaie faible qui se déprécierait, donc la valeur baisserait, et ça veut dire que, par exemple, on parle beaucoup des pensions en Grèce en ce moment, la valeur des pensions en termes de pouvoir d'achat s'effondreraient.
Du coup, quoi, repasserait de l'euro en Grèce au drachme ?
Oui, ou une autre monnaie, avec un nouveau nom, je ne sais pas.
Drôle de drachme. Guillaume Duval, le chaos, de toute façon, on y est depuis un moment. Comment se fait-il qu'on ne cesse de ne pas arriver, de sortir de ces six situations depuis quoi, 2007-2008 ?
On n'est pas dans le chaos, en tout cas au niveau de la zone.
Les Grecs, quand vous les écoutez,
au niveau de la zone euro,
ils en sont pas loin. Hein.
Au niveau de la zone euro, on a fait des choses très importantes pour limiter justement le risque de chaos. Donc, avec le mécanisme européen de stabilité, avec l'union bancaire, avec les mesures prises par la BCE. Mais c'est ce qui fait aussi aujourd'hui que la situation grecque est dangereuse, c'est-à-dire que beaucoup de gens dans la zone euro pensent que c'est plus un problème la Grèce. On n'est plus du tout dans la même situation qu'en 2010, où là, il y avait un risque de contagion très rapide et très grave, et que donc, on peut se permettre d'écraser les Grecs, de ne leur faire aucune concession, sur le fond des sujets, sur le fond des demandes du gouvernement Syriza. Et ça, je crois que c'est une illusion très dangereuse. D'une part, sur le plan économique, même s'il y a des mesures qui permettent de limiter les risques de contagion, de chaos, enfin que le chaos s'étende à l'ensemble de la zone euro, ça reste quand même très très risqué. Enfin, je veux dire, si la Grèce sort de la zone euro, on pourra pas empêcher les spéculateurs de se dire aujourd'hui c'est la Grèce, pourquoi demain ce serait pas le Portugal, l'Espagne, etc. Et donc on serait reparti sur une pente dangereuse pour l'avenir de la zone euro. Et d'autre part, sur le plan politique, géopolitique, ça reste un problème très grave.
Alors, avant de savoir quand même si ou non la Grèce risque de sortir de l'euro, rappelons l'enjeu de cette journée d'aujourd'hui, de ce sommet européen exceptionnel qui s'agit de voir si au fond les mesures grecques s'ajustent aux demandes de ses créanciers, notamment le FMI, pour savoir si d'ici le 30 juin elle peut commencer ou pas à rembourser 1,6 milliard d'euros, sachant que derrière il y en a encore d'autres. Mais déjà pour ça, est-ce que oui ou non aujourd'hui les fameuses bonnes bases dont parlent les créanciers, est-ce qu'elles vous semblent réunies et pourquoi le seraient-elles aujourd'hui et alors qu'elles ne l'ont pas été depuis bien longtemps, Agnès Bellassicari?
En réalité, on n'est pas très loin d'un accord. Hein. De toute façon,
consisterait en quoi? Qui cède à qui?
Les deux côtés cèdent. D'un côté, il s'agit pour les Grecs...
Les Grecs ne veulent pas baisser de plus les retraites, ne veulent pas davantage baisser les pensions.
Alors, baisser les retraites, il faut faire attention. Hein. Baisser les retraites, ça veut dire, en fait, supprimer plus rapidement les retraites anticipées. Il faut savoir que presque un tiers des employés du secteur public prennent leur retraite avant 55 ans. Hein. Donc on est quand même dans une situation... Il faut savoir que les retraites en Grèce, en pourcentage du PIB, c'est le double de la Slovaquie. Donc, il faut voir aussi le point de vue des créanciers qui ne sont pas forcément riches. Hein. Donc, il y a un enjeu sur les retraites, il y a un enjeu sur la TVA, il y a un enjeu sur les réformes. Et je pense qu'il y a possibilité pour les Grecs de venir avec des réformes qu'on dit structurelles, mais qui sont vraiment nécessaires en Grèce, hein, pour la concurrence, la justice, un certain nombre de choses, avec un calendrier plus précis, plus de garanties, un effort à court terme sur retraite et TVA. Et en échange, que les créanciers donnent un calendrier pour un allègement de la dette, une restructuration de la dette. Je pense que ça, c'est possible. Je pense pas qu'on obtiendra...
Allègement, restructuration ou un jour ou l'autre effacement?
Le problème, c'est que restructurer, ça veut dire baisser le taux d'intérêt et allonger la durée. Elle est déjà très très longue avec un taux d'intérêt très bas. C'est-à-dire que les Grecs, en pourcentage du PIB, ne payent pas plus d'intérêt que les Français. Hein, donc il faut donc on peut encore baisser le taux d'intérêt, allonger, mais on va pas aller très très loin. Donc après la question c'est est-ce que on réduit carrément la valeur de la dette. Je pense qu'un accord serait possible, un grand accord sans doute pas, un petit accord permettant de gagner encore un peu de temps. En attendant de trouver le grand accord qui sera le troisième plan, c'est sans doute possible.
Alors que l'on gagne du temps ou pas, certains analystes... Bonjour Jean-Marc Daniel. Bonjour. On avait prévu que vous arriviez en retard, donc ça y est, c'est fait. Je rappelle, économiste, professeur associé à l'école supérieure, l'ESCP, je vais y arriver, Europe, et directeur de rédaction de la revue sociétale. Alors on est en train de savoir si, avant de savoir si la Grèce doit sortir ou pas, si elle peut aujourd'hui, s'il peut y avoir un accord entre créanciers et gouvernement grec lors de ce sommet... européen exceptionnel. D'abord, est-ce que vous pensez qu'il peut y en avoir un ou pas?
Alors, je pense qu'il va y en avoir un pour trois raisons. D'abord, je pense que tout le monde veut sauver la saison touristique. L'essentiel du revenu de la Grèce, c'est le tourisme. Hein, sur un PIB qui fait 180 milliards d'euros, le tourisme, c'est 40 milliards d'euros. Et si les touristes arrivent en Grèce avec l'idée que les banques vont fermer, qu'il va falloir faire la queue pour avoir des euros, ça va complètement perturber la saison touristique. Donc, tout le monde est d'accord qu'il faut trouver un accord. Donc, quand on est d'accord pour un accord, on finit par trouver un accord. La deuxième raison, c'est que je pense que le gouvernement grec a mesuré qu'il était très isolé, donc il allait faire des concessions, qu'il allait devoir faire des concessions. Même Chypre, qui est quand même historiquement un allié de la Grèce, a pris position assez formellement contre les positions de Tsipras. Et donc Tsipras sent qu'il va falloir qu'il avance et qu'il bouge. Et le troisième élément...
Oui, enfin, sans trop décevoir son parlement quand même.
Oui, alors le troisième élément...
Et la population.
C'est que la population, elle associe la sortie de la zone euro à l'hyperinflation et plus ou moins implicitement à la période des colonels, c'est-à-dire une forme de retour de l'autorité violente sur le plan politique et économique. Et je crois que là aussi, la population est prête à suivre Tsipras dans une défense de la dignité nationale, mais pas d'aller jusqu'à un retour à l'inflation et aux colonels.
Alors Guillaume Duval, l'accord d'aujourd'hui, le sommet d'aujourd'hui, l'enjeu d'aujourd'hui, dont on dit que c'est crucial. Hein, on n'est jamais qu'à 8 jours du 30 juin maintenant. Quand même.
Je crois que nous sommes tous les trois d'accord, mais peut-être qu'on aura perdu nos paris ce soir pour... penser qu'il y aura un accord, sans doute pas le grand accord, mais quelque chose qui permettra dans l'immédiat de passer l'obstacle. J'ajouterai simplement à la présentation très unilatérale que vient de faire Jean-Marc Daniel, un autre élément qui me paraît essentiel, c'est que je crois que Angela Merkel n'a aucune envie d'être la chancelière allemande qui aura déclenché de nouveau des hostilités avec la Grèce et qui aura mis en danger à la fois l'euro et le projet de construction européenne. Elle a déjà essayé à plusieurs reprises et de faire entendre raison à son ministre des Finances qui était très va-t-en-guerre sur ce sujet. Elle doit effectivement compter aussi avec tout un tas de petits pays qui sont très va-t-en-guerre contre Syriza sur ce sujet, comme ça a déjà été évoqué, la Slovaquie, les pays baltes, etc. Mais je crois qu'elle fera ce qu'il faut, y compris en termes de concessions du côté des créditeurs, cette fois, pour trouver un accord, elle aussi, et ce sera difficile vis-à-vis de son opinion publique, mais j'ai confiance dans le fait qu'elle pèsera dans ce sens.
Oui, d'autant que, justement, parmi les créanciers, le cliché est souvent de dire que c'est l'Allemagne qui serre la gorge des Grecs, mais pas tant que ça, forcément. Écoutez ce que nous disait à ce même micro Jean-Claude Juncker le 12 juin dernier, le président de la Commission européenne, bien sûr, Jean-Claude Juncker. Il a voulu rappeler que l'Allemagne n'était pas le pays le plus strict, justement, vis-à-vis de la Grèce.
Je voudrais dire une fois pour toutes, mais c'est un message qui ne passe pas, que l'Allemagne n'est pas parmi les pays qui furent les plus exigeants à l'égard de la Grèce. La Finlande, l'Autriche, les Pays-Bas, la Slovaquie, la Slovénie, Malte ont été et sont toujours plus exigeants que l'Allemagne. Et pour une raison, je dois dire, compréhensible, le SMIC dans ces pays-là est moins élevé qu'en Grèce. Les pensions dans certains de ces pays-là sont moins élevées qu'en Grèce. Exiger d'un ministre des Finances slovaque d'aller au Parlement à Bratislava pour essayer d'avoir l'appui de son Parlement sur un programme qui, en fait, ne reflète pas la réalité slovaque, qui est autrement plus grave que la réalité grecque.
Voilà, et Jean-Claude Juncker rajoutait d'ailleurs à ce micro, tous ceux qui parient sur une crise et des scénarios catastrophes ont tort. Pourtant, si on reprend la situation quand même à l'heure d'aujourd'hui, le système bancaire est très affaibli, les responsables de la Banque Centrale Européenne ont averti les membres de l'Eurogroupe que les banques grecques ne pourraient peut-être pas ouvrir aujourd'hui. Lundi, on a vu notamment que la semaine dernière, des Grecs ont retiré beaucoup de liquide, plus de 3 milliards d'euros, dont 1 milliard pour la seule journée de mercredi dernier. Qu'est-ce que ça signifie tout cela quand même
Alors peut-être qu'il faut expliquer la mécanique. Pourquoi les fuites de capitaux
peuvent
entraîner...
Et dans un instant, je rappelle, nous aurons Angélique Coronis au téléphone.
Donc en fait, les Grecs, donc, tout en soutenant leur gouvernement, quand même prennent leurs précautions et déménagent leurs dépôts, donc retirent leurs dépôts. Les banques n'ont pas de quoi... verser les billets, hein, tout simplement, aux particuliers qui retirent leurs dépôts. Et donc, ils empruntent cette liquidité auprès de ce qu'on appelle l'eurosystème, c'est-à-dire l'ensemble des banques centrales de la zone euro. Et donc, ça accumule une dette, en plus de la dette publique, ça accumule une dette à l'intérieur de l'eurosystème, de la Banque de Grèce, par rapport aux autres banques centrales nationales. Et donc ça, si c'est 1 milliard par jour, si vous voulez, il y a un moment donné où ça pose problème. Et en fait, il faut que la BCE donne son accord pour que ça continue. Et la BCE, la semaine dernière, a relevé 2 fois le plafond. Hein, elle le fait petit à petit parce que, en fait, si elle arrête, les banques en Grèce vont se trouver à court de liquidités et vont être en faillite immédiatement. Donc, en fait, c'est la BCE de facto qui a le pouvoir, d'une certaine manière, de arrêter tout et que la Grèce n'ait pas d'autre choix que sortir de la zone euro. C'est très embêtant, ça, parce que la BCE n'est pas une institution démocratique, donc la BCE ne peut pas prendre cette responsabilité.
Alors, la question quiz du jour. Avez-vous lu Libération de ce week-end, l'article de Vittorio De Filippi et Maria Malagardis, qui font tout de même état d'une commission chargée par le Parlement grec d'établir un audit des finances du pays? Et cet audit qui a été révélé aux Grecs il n'y a pas si longtemps, il y a 2-3 mois, est tout de même explosif, puisqu'il révèle quand même que les plans d'aide des institutions internationales n'avaient pas vocation à sauver Athènes, mais seulement les banques étrangères. Donc les Grecs se demandent bien pourquoi il faudrait qu'ils remboursent au FMI et à qui sache encore des prêts qui n'étaient pas destinés à améliorer leur vie quotidienne. Guillaume Duval.
Oui, enfin ça, c'est pas un scoop. C'est vrai que les plans grecs depuis 2010 ont servi essentiellement, effectivement, à permettre de rembourser les créanciers de la Grèce, c'est-à-dire les banques qui avaient pris des risques inconsidérés en prêtant trop d'argent aux Grecs dans la période antérieure. C'est cela la fonction principale de ces plans. Et c'est vrai que ça a très peu profité aux Grecs eux-mêmes, à l'État grec lui-même. Une part très faible de cet argent est allé en Grèce. Oui. Enfin, et donc ça, c'est un des arguments qu'utilise en particulier Yanis Varoufakis pour dire que il ne faut pas continuer sur cette voie-là et trouver les moyens de cesser d'accroître la dette grecque.
Il y a quand même plus grave encore. Il y a tout de même un document secret que publie Libération qui dit que le FMI était parfaitement conscient de l'impasse des politiques d'ajustement et qu'elle ne réglerait rien.
Non, mais je voudrais faire deux remarques. Quand on dépense de l'argent dans les dépenses qui sont obligatoires pour un budget, normalement, c'est les intérêts. Donc on dit, écoutez, ils ont utilisé l'argent pour payer les intérêts. Ils ont utilisé l'argent qu'on leur a prêté pour payer les intérêts, pour payer leurs fonctionnaires, pour payer leurs dépenses publiques. Ils ont été obligés, effectivement, de consacrer une partie des recettes qu'ils avaient, qui n'étaient pas que des recettes fiscales, à payer. Mais tout le monde fait ça. C'est-à-dire, dès que vous avez des intérêts à verser, les emprunts que vous faites servent en partie à payer les intérêts que vous versez. Quant au discours sur le FMI, je ferai là aussi deux remarques. La première remarque, c'est vrai qu'il y a un problème de gouvernance du FMI. Le FMI multiplie des documents qui sont contradictoires, donc on a un problème. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelqu'un à la tête du FMI? Je pose une question qui est un peu annexe par rapport au dossier.
Mais il y avait le blagarde jusqu'à présent.
Mais oui, donc je me pose toujours renouvelle la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un à la tête du FMI? La deuxième remarque que je ferai, c'est que effectivement, le FMI est une institution qui a mis en place des politiques pour réduire des déficits extérieurs. Et là, on avait un déficit intérieur, un déficit des finances publiques. Et assez vite, les gens du FMI se sont aperçus que les outils qu'ils utilisaient, de façon un peu automatique, n'étaient pas forcément les meilleurs pour le problème qui était posé. Alors, mais le problème existait.
Je voudrais nous rendions à Athènes où il est 8h58 pour un bref moment, sachant qu'on vous entendra plus longuement dans la deuxième partie. Angélique Kourounis, bonjour.
Bonjour.
Est-ce qu'on peut avoir un peu la température, si j'ose dire, et l'ambiance, l'atmosphère qui règne ce lundi 22 juin 2015 à 8h59 maintenant à Athènes?
Pour être tout à fait précise, il pleut. Je ne sais pas si ça intéresse, mais je vous le dis quand même. Ce qui est étonnant pour l'époque. Alors, ouais. Pour ce qui est des Grecs, je dirais qu'ils sont inquiets, bien sûr. Quelle Grèce dans quelle Europe? C'est un peu la question qu'ils se posent depuis 4 mois, mais depuis quelques jours, ils se la posent vraiment de façon extrêmement intense. Ils manifestent. Hier, il y avait 7000 personnes devant le Parlement pour rappeler
au gouvernement... Voilà, grande manifière.
Absolument, pour rappeler au gouvernement qu'il y a des lignes rouges à ne pas dépasser, mais que... Tout de même, la majorité de la population soutient Tsipras dans ses négociations avec les créanciers parce que l'un de vos invités l'a dit, il a rendu une fierté aux Grecs de voir qu'il n'y a pas que une acceptation et une capitulation, il y a aussi une discussion avec des points de vue qui sont défendus, en tout cas pour le gouvernement grec. Et puis il y a une autre partie des Grecs qui est minoritaire, qui va aussi manifester ce soir de façon assez virulente comme jeudi dernier, qui elle est très inquiète, non pas d'une sortie de l'eurozone, mais aussi d'une sortie de l'Union européenne qui a été présentée de façon assez étonnante par le gouverneur de la Banque de Grèce. Donc il y a un climat d'attente, il n'y a absolument aucune panique. Il n'y a pas de queue devant les bancomates,
Qui vient
de
rétablir.
Pas de ruée vers les sacs de pâtes dans les supermarchés. Les Grecs continuent leur vie. Ils sont épuisés par presque 7 ans de récession, 5 ans d'austérité, 4 mois de négociations avec toujours la même réponse, la même qui est tombée d'ailleurs cette nuit. C'est bien, c'est une bonne base pour discuter, mais ça ne suffit pas. Et maintenant, les Grecs commencent à croire que quoi que propose ce gouvernement, et pas seulement les gens qui ont voté pour le Syriza a été élu par 36 personnes, par 36% de la population, et plus de 50% soutient encore le gouvernement, ils ont le sentiment que les créanciers ne sont pas finalement intéressés par un accord, tant qu'il n'y aura pas une capitulation en bonne et due forme du Syriza, c'est-à-dire des propositions qui sont autres que l'austérité. Là, l'effort qui a été fait hier a été un effort de plus d'1 milliard d'euros.
On vous retrouve tout à l'heure, Angélique Kourounis, de 8h15 à 8h45 avec nos invités. Deuxième partie qui sera introduite par Brice Couturier. Bonjour Brice.
Bonjour Marc. Oui, le Conseil européen de ce soir n'a pas pour mission principale de discuter de la Grèce, mais bien d'autres questions qui se posent aujourd'hui à la zone euro. Le moment en est-il pas venu en effet d'une intégration plus poussée des politiques budgétaires nationales, ne serait-ce que pour faire face à une prochaine crise financière face à laquelle nous serions fort démunis puisque toutes les armes dont nous disposions jusque-là sont déjà utilisées à plein régime.